Bien, bonjour à tous. Alors du coup, je suis avec vous aujourd'hui pour faire suite à une journée d'études jeunes chercheurs qui est relative à la construction de l'objet de recherche durant la thèse. Celle-ci s'est tenue le 10 novembre 2021 dans les locaux de l'UFR STAPS de Besançon, donc l'unité de formation et de recherche en sciences et techniques des activités physiques et sportives, et donc dans les locaux du laboratoire C3S qui s'appelle donc Culture, Sport, Santé et Société. Et donc cette journée d'études était destinée principalement aux jeunes chercheurs en sciences humaines et sociales. Et donc aujourd'hui, je suis avec vous pour revenir un petit peu sur cette journée d'études, comment sur les résultats peut-être de cette journée d'études. Et donc je vais laisser très très vite la parole à Louise Benkimoun. Donc je me présente aussi avant de l'introduire. Je suis docteur en STAPS et j'ai récemment soutenu une thèse en décembre 2020. Et donc j'ai aussi l'honneur de contribuer à l'inauguration de cette première session de podcast que l'on a intitulée La thèse n'est pas un long fleuve tranquille. Donc Louise Benkimoun, tu es doctorante en sciences du langage à l'université de Rouen. Et puis tu fais une thèse. Donc c'est une thèse qui est en préparation toujours, tu es en deuxième année de thèse. Au laboratoire DILIS, Dynamique du langage in situ, donc tu me corriges si je me trompe, et donc c'est une thèse voilà, sous la direction de Catherine Delarue-Breton. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ton parcours, notamment de formation et ton parcours doctoral, s'il te plaît?
D'accord, volontiers. Effectivement, comme tu l'as dit, je suis en deuxième année de thèse. Et avant de m'engager dans cette thèse, j'étais professeure dans l'éducation nationale de lettres classiques, donc français, latin, grec. Et encore avant ça, je faisais des études de linguistique et de lettres classiques à Paris.
D'accord, entendu. Et donc, qu'est-ce qui t'a décidé à poursuivre un petit peu peut-être ton parcours de formation vers le doctorat?
C'est une vaste question. Plusieurs choses m'ont conduite à la thèse. Bon, c'est principalement mon expérience de l'enseignement qui m'a donné envie de faire une thèse. J'enseignais en collège et en lycée à Paris et dans le 93. Et j'ai reçu une formation à l'ESPE. Maintenant, c'est les INSPE. Mais à l'époque où c'était moi qui étais en formation, on appelait ça les ESPE. Et j'étais à la fois émerveillée et effrayée de la quantité de choses qu'il y avait à penser dans la salle de classe. Et en même temps, un peu frustrée de la formation que j'avais reçue, qui ne répondait pas beaucoup à mes questions. Et donc, j'ai eu envie de prendre le temps, en fait, de répondre à mes questions. Et mes questions, c'était principalement ces histoires de participation. En gros, la doxa faire participer les élèves. C'était à la fois une doxa qui avait beaucoup de sens pour moi dans ma pratique enseignante, et en même temps je me disais mais qu'est-ce qui se joue exactement dans cette participation, et voilà, j'avais envie de creuser ça, et je trouvais que ce qu'on me disait en formation était très normatif, qu'on me donnait beaucoup de consignes très précises et qui me laissait peu de marge de manœuvre, et j'avais envie de prendre le temps en fait moi de réfléchir pour ensuite savoir pourquoi je faisais les choses en tant qu'enseignante quoi. Je sais pas si c'est clair.
D'accord. Donc si, c'est vraiment un questionnement finalement réflexif sur ton métier qui t'a poussé à poursuivre en thèse, en doctorat. Est-ce que tu avais du coup déjà mené peut-être des travaux de recherche dès le master à l'époque sur ces questions de participation, ou pas du tout? C'est venu vraiment d'un questionnement plutôt professionnel ensuite.
Oui, alors c'est assez drôle. Enfin, bon, moi je trouve ça drôle, mais vraiment ma thèse prend racine dans des terreaux très différents. C'est-à-dire qu'il y a eu ce que je t'ai dit là, l'expérience de l'enseignement et une forme de frustration pendant ma formation, qui donc m'a donné envie de prendre le temps de décrire rigoureusement et scientifiquement ce qui se passait à l'endroit de la participation des élèves. Mais effectivement, les premières billes que j'ai eues moi pour penser ça, elles me venaient de ma formation, qui est donc effectivement une formation de recherche. Mais principalement en lettres classiques, parce que moi j'ai fait un master de recherche sur le rire dans l'Antiquité grecque.
D'accord.
Et en fait, bon, ça a l'air très très loin des questions de participation, mais pas tant que ça, dans le sens où une des parties de mon master, qui portait donc sur Platon et sur la philosophie du rire chez Platon, me conduisait à la question de la participation. Je vais vite pour pas ennuyer les gens qui écoutent, mais il y a une contradiction un peu connue dans les études platoniciennes qui, entre les moments où Platon condamne le spectacle comique comme étant vecteur de mal dans la cité, et les moments où Platon dit que le spectacle comique est indispensable au bien de la cité. Donc, il y a cette contradiction qui est pas évidente à lever, et une des choses qui permet de lever la contradiction, c'est le verbe metekein en grec, qui veut dire participer, enfin qu'on traduit plus souvent par participer.
D'accord.
Et moi, c'est ça qui m'a mis sur le... disons, c'est ça qui a fait écho. Voilà, c'est ça qui a fait écho en moi. Je me suis dit, mais c'est drôle, pour le théâtre, pour Platon et pour les élèves au XXIe siècle, il y a cette idée que le degré de participation a, donc que ce soit au spectacle comique ou au cours que je donnais, change le rapport à la connaissance acquise. Donc en fait, ça semble très très loin, mais moi, il y a des choses qui ont fait écho en moi et qui m'ont donné envie d'aller creuser. Et après, je suis allée creuser avec des outils de linguistique, ce qui n'était pas ma formation initiale. Mais voilà, comme j'avais préparé l'agrégation de grammaire, j'avais quand même 2-3 repères en linguistique.
D'accord. Et donc, vous aviez obtenu cette agrégation de grammaire ?
Oui.
D'accord, tu l'avais obtenu. Ok.
Ouais.
D'accord, super. Et donc, alors, qu'est-ce qui t'a permis, si je puis dire, cette fois, de t'engager en thèse concrètement ? Est-ce que tu as réussi à trouver un financement ? Quelles ont été les conditions de réalisation de ta thèse ?
Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que donc j'ai pu avoir un contrat doctoral.
D'accord.
Donc, je suis rémunérée pour faire mes recherches, ce qui est une chance. Et donc, j'ai pris une disponibilité de l'éducation nationale, puisqu'on ne peut pas partir comme on veut quand on est fonctionnaire. Mmh. Et j'ai pu faire ma thèse en étant rémunérée. Ceci dit, s'il y a des personnes qui se posent la question de faire une thèse ou pas, moi, donc, je fais une thèse à Rouen alors que j'habite à Paris. Et j'avais pas anticipé un certain nombre de difficultés qui iraient avec le fait de faire sa thèse à distance. Bon, qui ont été aggravées, hein, je pense, par la pandémie. Mais c'est compliqué d'être loin de son lieu de travail, et donc par conséquent de ne pas avoir de lieu de travail, et d'être loin aussi de ses collègues, de ses co-doctorants. Donc peut-être s'il y a des gens qui hésitent, faites plutôt une thèse près de chez vous si vous pouvez.
D'accord. Et donc, ce choix de Rouen, du lieu de la thèse, il était fonction de comment de ton encadrement
Oui.
D'accord.
Oui, moi, je voulais faire une thèse à Paris 8, parce que c'était une fac qui me faisait de l'œil depuis un moment. Et j'avais l'impression que... Voilà, il y avait à la fois des labos de sciences du langage, des labos de sciences de l'éducation, il y avait des postures de chercheurs, et notamment de la manière d'envisager les liens entre recherche et société qui me parlaient. Et en fait, les personnes à qui j'ai pu parler à Paris 8 m'ont orienté vers ma directrice de recherche actuelle, et je les en remercie infiniment parce que c'est une direction extrêmement précieuse.
D'accord. Super, c'est une très bonne chose en effet. Et donc, est-ce que ce projet, finalement, ce projet scientifique, il a été complètement porté par toi ? Est-ce qu'il a été, du coup soutenu donc par ta directrice de thèse ? Enfin, comment ça s'est passé du coup du point de vue du lancement finalement en lui-même de ton projet de recherche ?
Eh ben, la première étape, peut-être les premières étapes de formulation de mon projet de recherche, ça a été le master MEF. Donc après mon master de recherche en maths classique, une fois qu'on a un concours de l'enseignement et qu'on se retrouve donc en formation pour devenir prof de l'éducation nationale, dans les ESPE, on a la possibilité soit de faire une petite formation qui n'est pas diplômante, soit de faire ces quelques heures de formation et de rendre un mémoire. Et donc, on obtient un autre diplôme, un master qui est un master MEF. MEF, c'est l'acronyme, ça doit être de métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, je crois.
Oui, il me semble que c'est.
Ouais. Et donc, c'est dans le cadre de ce master MEF que j'ai commencé à travailler. C'est un master où on est invité à analyser ses pratiques. Et donc, j'ai commencé à analyser dans le cadre de ce master, de ce mémoire, certains des dispositifs de participation que j'essayais de mettre en place.
D'accord.
En essayant de comparer ce que moi j'en attendais, ce qui s'était effectivement passé et comment ça pouvait s'interpréter. Et, voilà, donc j'étais pas enfin, j'en étais pas au degré zéro de ma réflexion quand j'ai rédigé mon projet de thèse.
D'accord.
Et donc c'est un peu avec ça que je suis allée voir ma directrice de thèse, enfin celle qui allait devenir ma directrice de thèse. J'ai lu et relu sa note de synthèse en vue de l'obtention de l'HDR. Mmh. Et ça a déjà énormément fait progresser ma réflexion. Et ça l'a énormément nourri en termes de sens du langage. Et donc c'est avec cet état-là de mes questions que j'ai pris rendez-vous avec elle. Et ensuite, on a élaboré ensemble un projet de recherche.
D'accord, ok. Vous l'avez vraiment élaboré en collaboration. D'accord.
Oui, je sais que ça ne fonctionne pas toujours comme ça, la direction de recherche, mais ma directrice de recherche a cette immense qualité de toujours essayer de m'aider à faire ce que moi je veux faire.
Ah, d'accord, c'est une bonne chose en effet pour toi.
Oui.
Okay. Et donc du coup maintenant je vais en venir donc plus spécifiquement à notre thématique hein, de cette journée d'études de l'année dernière, donc la construction de l'objet de recherche durant la thèse. Pourquoi avoir candidaté à notre appel à communication sur la construction de l'objet justement à l'époque où tu as pu le lire sur internet donc l'année dernière?
Oui, et justement parce que ma première année de thèse n'avait pas été un long fleuve tranquille du tout, et que j'ai trouvé ça extrêmement, oui, en partie réconfortant, mais aussi extrêmement sensé et stimulant, voilà, d'essayer de se réunir entre doctorants pour réfléchir à ce qui fait problème en fait, pour réfléchir à nos difficultés, voilà, pour mettre en commun nos erreurs et nos errances et nos pistes de solutions. Et j'avais vraiment très envie de ce moment d'élaboration collective, voilà.
D'accord.
Comment on surmonte les difficultés des premiers temps de la thèse. Et voilà, moi j'avais passé beaucoup de temps à ce moment-là à essayer de surmonter un certain nombre des obstacles rencontrés en première année. Mm-hmm. Et je trouvais ça très stimulant comme perspective d'essayer d'en faire quelque chose d'un point de vue scientifique.
Bien sûr, bah c'est réconfortant d'entendre ça, puisque c'était vraiment notre objectif, hein. C'était l'enjeu de cette journée d'études, de se rassembler et puis de dialoguer et puis d'échanger justement autour de ces obstacles,
oui,
et puis de ces levées d'obstacles aussi, de ces dépassements d'obstacles. Donc c'est vraiment ce qui nous intéressait. Donc
oui.
Bah du coup, maintenant peut-être que tu pourrais nous parler des débuts de ta recherche. Par quel terrain as-tu commencé? Quelles ont été tes premières préoccupations lorsque tu as démarré ta thèse? Donc l'année dernière, pour le coup.
Oui. Le point de départ de ma thèse, bon, au-delà des prémices, voilà, du cadre théorique qui s'élabore vraiment tout du long de la thèse, les premiers temps de la thèse, pour moi, c'était aussi le moment donc, du terrain. Et moi, mon projet de terrain, c'était d'aller avec mon carnet de notes et mon enregistreur dans des collèges du 93. Plutôt donc 93 à Seine-Saint-Denis, le département le plus pauvre de France. Je le dis parce que cette particularité du 93 est une des raisons pour lesquelles je l'ai choisi comme terrain d'observation pour mes recherches. Mm-hmm. Et puis c'était là que j'avais enseigné aussi en partie. Donc c'était d'aller poser mon enregistreur et mon carnet de notes dans des collèges du 93. J'avais en tête que je voulais plutôt aller dans des cours de français, mais je suis aussi allée voir des cours d'histoire géo. Et mon but, voilà, c'était de plus être la prof pour avoir le temps de réfléchir à ce qui se passait. Et donc, je voulais m'installer sur le temps long, à ce qu'on appelle parfois des observations longitudinales, dans une classe pour essayer de regarder un peu ce qui se passait et ce dont la participation était le lieu. Et donc pour ça, il fallait que je choisisse la classe dans laquelle j'allais m'installer longtemps. Et donc j'ai commencé par explorer un peu dans plein de classes différentes.
D'accord. Et donc est-ce que assez vite tu as réussi à te décider sur l'une de ces classes, ou est-ce que c'était déjà une question compliquée? Est-ce que ça t'a déjà posé des problèmes dès le début?
Oui. Alors, ça a posé plusieurs problèmes, mais ça a aussi permis d'avancer, en fait, hein, dans l'élaboration de mon objet de recherche. Parce que, par exemple, je faisais l'hypothèse en début de thèse qu'il y aurait une différence forte entre les premières années du collège la sixième et la cinquième, et les classes d'après, la quatrième et la troisième. Et en fait, dans mes observations préparatoires, je me suis rendu compte que non. Donc, il n'y avait pas une différence radicale. Il y a sans doute une différence qui mériterait d'être analysée finement et tout ça, mais en tout cas, il n'y avait pas une différence aussi radicale que celle que j'anticipais. Ça m'a permis aussi de me conforter dans le fait que mes recherches se cantonneraient au cours de français. Parce qu'en fait, la différence de nature des objets enseignés en histoire géo et en français justifie, à mon avis, des réflexions assez différentes sur les enjeux de la participation. Mmh. Intéressantes toutes deux, hein, mais j'ai pas le temps de tout faire. Et puis, je pense que c'est beaucoup de ça qu'on va parler, mais je me suis rendu compte assez vite que l'étape du recueil de consentement, qui devait être une formalité, c'est-à-dire recueillir le consentement des élèves et de leurs parents pour que je puisse allumer mon enregistreur, s'est avérée en fait une étape très, très difficile et pas du tout une formalité puisque je n'ai pas recueilli le consentement.
D'accord, oui. Oui, c'est donc vraiment le problème épineux de ta recherche, de thèse. Et donc, c'est ce que tu nous avais confié à l'occasion de notre journée d'études. C'est ce qui nous avait d'ailleurs beaucoup plu en termes de discussion. Est-ce que déjà, tu avais pu, du coup, j'ai une autre question qui me vient, est-ce que tu avais déjà pu comment ressentir une certaine crispation à l'idée d'être observé en classe par un chercheur? Enfin, voilà, comment du coup peut-être l'institution scolaire a résisté finalement à ton incursion dans son intimité ou voilà dans son petit monde professionnel quotidien? Est-ce que tu avais voilà déjà senti des réticences hein, d'emblée lorsque tu avais pris contact avec ces établissements du 93?
Oui, tout à fait. Si je dois être complètement honnête sur les points de tension et les blocages qui se sont présentés, il y a eu d'abord la pandémie, mais comme c'est très contingent, voilà, je ne vais pas développer, mais je ne pouvais pas aller comme je voulais dans les établissements scolaires. Et c'était bien normal que j'aille pas faire courir des risques ni aux enseignants ni aux élèves. Et puis, les établissements scolaires ont fermé pendant un temps. Et ensuite, effectivement, une fois que j'ai pu, que les établissements scolaires ont réouvert et que j'avais à nouveau le droit d'y aller, il a fallu trouver des enseignants d'accord pour m'accueillir. Ça a été une étape très compliquée. J'ai contacté d'abord des collectifs d'enseignants qui ne m'ont pas répondu. J'ai fonctionné par contact, ça n'a pas tellement marché. Et puis, il y a deux choses qui ont marché. Je suis passée par mon syndicat.
D'accord.
En tant qu'enseignante. Et ça a été vraiment, vraiment super. Moi, je suis syndiquée chez Sud Éducation. Et donc, en fait, ça fait que la plupart des collègues syndiqués aussi chez Sud Éducation sont investis en général dans une réflexion sur leur pratique pédagogique. Et donc, ça permettait de rentrer en contact avec des collègues qui seraient a priori, qui pouvaient être intéressés voilà, par ma question de recherche.
D'accord.
Et c'est là où c'est par ce biais que le plus de collègues m'ont répondu. Et j'ai contacté un de mes formateurs de l'ESP qui est toujours à ce jour encore à ma grande surprise, alors qu'il savait très peu de choses sur mon sujet de recherche, m'a dit j'ai la personne qu'il vous faut. Et il m'a mis en lien avec une enseignante qui est effectivement devenue l'enseignante que j'ai suivie dans ma thèse.
C'est une
sorte de miracle. Et elle non plus, elle ne sait pas pourquoi est-ce que c'est elle qui a été désignée comme la personne qu'il me fallait. Mais c'était effectivement la personne qu'il me fallait. Mais tout à fait, oui, beaucoup de réserves à accueillir. Enfin, après, parce que une fois que je rentre dans l'établissement scolaire, c'est plus facile de discuter en fait avec les enseignants qui sont là et de leur demander si je peux passer dans leur classe, etc.
Bien sûr, il faut avoir franchi cette étape, quoi, en tout cas.
Oui, et je pense que le fait que j'ai été que je sois enseignante et que je souhaite le redevenir change aussi pas mal la posture, parce qu'en fait, moi, je fais vraiment ma thèse dans une perspective de m'outiller en tant qu'enseignante et d'outiller l'ensemble des enseignants pour penser leur pratique. Je fais pas ma thèse dans une perspective de faire avancer la science pour le bien des chercheurs que ça intéressera.
Il y a une visée très applicative, oui, en effet. D'accord.
Oui. Et je suis pas critique hein, vis-à-vis de la science fondamentale. Je trouve que c'est très précieux. C'est juste pas ça que j'avais l'intention de faire. Et je pense que ça change un peu le rapport parce que, en fait, bon, la posture de l'observateur dans la salle de classe, c'est bien souvent la posture de la hiérarchie, malheureusement.
D'accord, oui.
On n'a pas beaucoup la culture en France d'aller dans les cours des collègues, parce que en fait c'est super intéressant de voir comment font les collègues. On devrait le faire tout le temps, d'aller dans les classes des uns et des autres pour se former entre nous. Mais voilà, il a fallu désamorcer, je pense, un peu ce côté regard extérieur, voilà, sachant que la hiérarchie est parfois très très normative sur nos pratiques et que c'est assez désagréable.
Bien sûr, ok, d'accord. Donc, on va pouvoir peut-être en venir au problème plus spécifique dont tu nous avais parlé sur ce consentement des élèves. Du coup, que s'est-il passé? Voilà, qu'est-ce que tu as, voilà, comment tu as pu constater ce problème? Et puis ensuite, peut-être quelles ont été finalement les voies de sortie, hein, de cette un petit peu tension, quelles ont été finalement les perspectives pour dépasser un peu cet obstacle central que tu as pu rencontrer dès le début de ta thèse.
Oui. Et ben, en fait, j'ai passé le moment de panique, mais qui a duré longtemps, en fait, hein, où je me rendais compte que les élèves n'étaient pas d'accord pour que je les enregistre et je ne voulais pas passer outre leur consentement. Je me suis rendu compte que ce qui était en train de se passer, enfin, peut-être il faut préciser que il n'y a pas une grande culture du recueil du consentement dans les sciences humaines, comme on avait pu s'en rendre compte d'ailleurs pendant nos journées d'études. Hein, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais
si, si, bien sûr.
Ouais, oui, tu vois, on était nombreux, nombreuses à avoir été confrontés à ce problème et avoir envie de réponse en fait par rapport à ce problème éthique, de comment on demande le consentement de nos enquêtés, etc., et à avoir été un peu en peine de repère sur ce point.
Bien sûr.
Et donc moi, comme semble-t-il beaucoup d'entre nous, j'ai été en peine et je me suis dit, mais en fait ce qui se passe là, c'est que je suis en train de leur donner la parole d'une manière dont ils n'ont pas l'habitude qu'on leur donne la parole. En fait, je suis en train de leur demander leur avis sur un truc où il n'est pas d'usage de leur demander leur avis. Et en plus de nos jours, je veux dire, au-delà de ce qui se fait dans les sciences sociales, dans l'institution scolaire, mais je veux dire, on passe notre temps à donner nos données personnelles sans le savoir. Vraiment, là, tout d'un coup, je leur demande leur avis sur un truc où ils n'ont pas l'habitude que je leur demande leur avis. Et je me suis rendu compte qu'en fait, en leur demandant leur avis, c'est bête, hein, mais je leur donnais du pouvoir. Et j'ai trouvé que les échos étaient nombreux avec la participation. C'est-à-dire qu'en fait, si on donne vraiment la parole à quelqu'un, si on donne vraiment la parole aux élèves, on prend un risque. En tant qu'enseignant, d'être déstabilisé parce que l'élève a à dire, de ne pas avoir la réponse à sa question, que sa question nous oblige à réorienter notre cours, d'être contesté peut-être, de se rendre compte qu'on s'est trompé, enfin. Et qu'en fait, les donner la parole sincèrement, c'est toujours donner le pouvoir. Et je me suis dit qu'il y avait en fait une sorte d'analogie entre ce qui m'arrivait en tant que chercheuse, c'est-à-dire avoir voulu donner la parole aux élèves et me rendre compte que ça m'empêchait de faire ce que j'avais prévu de faire. Et ce qui peut arriver quand on est enseignant, c'est-à-dire de vouloir donner la parole aux élèves et en même temps pas très bien savoir faire de ce qu'ils ont à dire. Pas très bien savoir quoi faire de ce qu'ils ont à dire, pardon. Et c'est un peu ça, je crois, qui m'a permis de rebondir sur cette difficulté. C'est que je trouvais qu'en fait, cette difficulté légitimait mon sujet. Et puis, comme je me suis rendu compte aussi que j'étais pas seule avec cette question, je me suis dit, on y va, quoi, on essaye de penser. D'accord, c'est quoi les enjeux du recueil de consentement en sciences humaines et sociales, plus spécifiquement en sciences du langage? Et donc j'ai essayé, voilà, un petit peu, peut-être que théoriser c'est un gros mot, mais j'ai essayé un petit peu de détailler les enjeux théoriques de cette étape du recueil de consentement, comment ça nous oblige en fait à définir la parole de nos enquêtés. Alors je dis enquêter, c'est parfois un terme un peu controversé, mais des personnes dont on recueille la parole. Sachant que quand on est en sociolinguistique, c'est la matière qu'on va analyser leurs paroles.
Bien sûr.
Donc c'est important de savoir à quelle place on la met. C'est important de prendre conscience des rapports de force entre nous en tant que chercheurs et elles et eux en tant que personnes dont on recueille la parole, etc. Et moi je trouve que le recueil de consentement est lourd de tous ces enjeux théoriques-là. Et aussi, intuitivement, voilà, on se dit on donne bien nos données personnelles à des banques, on donne nos données personnelles aux GAFAM. Quand même, c'est un peu aberrant que les banques et les GAFAM n'aient pas de scrupules et que les chercheurs en aient. Mais en fait, ça, ce que ça pose, c'est la question de l'utilité publique de nos recherches. Et je trouve que c'est une question qui mérite elle-même d'être posée. Et j'aime bien, voilà, le fait que penser le consentement, ça impose de penser tout ça conjointement. comment on définit la parole de nos enquêtés, les rapports de force entre nous et nos enquêtés et l'utilité publique de nos recherches. Et voilà, donc finalement, c'est devenu un point de ma réflexion que, bah, qui était lié voilà, à ma question théorique de départ et qui m'intéressait de traiter et dont j'aime beaucoup encore parler avec des co-doctorants, co-doctorantes et des chercheurs, chercheuses.
Je comprends, bien sûr, bah c'est hyper intéressant. Hein. Tu l'as bien dit, mais je pense en effet que le recueil de consentement, c'est véritablement un impensé hein, des recherches en sciences humaines et sociales, et puis plutôt, même peut-être plus largement, un impensé hein, dans la recherche scientifique, enfin, du moins sur des données telles que la parole ou comment des données, ne serait-ce que de l'observation du terrain, enfin, je pense à l'ethnologie, etc. Mais du coup, voilà, est-ce que ça a eu un impact sur la construction de ton objet de recherche? Est-ce que tu saurais décrire un avant et un après? Est-ce que ça a fait véritablement évoluer ton objet de recherche? Ou est-ce que plutôt ça a permis de l'affiner dans sa définition? Enfin, comment le verrais-tu finalement, si, rétrospectivement?
C'est super intéressant ta question. Je ne sais pas toi comment tu vois les choses, mais toi ça y est, t'es docteur maintenant.
Oui.
Mais je trouve que c'est pas toujours facile de garder la trace des étapes successives de sa réflexion. Enfin,
bien sûr.
Tu vois ce que je veux dire? À moins d'avoir vraiment une rigueur dans l'écriture, de documenter toutes les étapes de sa réflexion, je trouve que parfois c'est un peu dur de se rappeler comment on voyait les choses avant de les voir différemment.
Tout à fait.
Mais il faudrait hein, garder la trace de ça, en fait. Mais bon, bah, je n'ai pas encore cette rigueur. Mais je crois que ce qui a beaucoup changé, c'est peut-être pas la définition de mon objet de recherche, c'est-à-dire de la participation. Je crois que ce qui a beaucoup changé, c'est, mais grâce notamment à la participation aux journées d'études que vous aviez organisées, mais c'est ce que j'attends. La définition de ce que c'est qu'un objet de recherche. Et j'ai beaucoup, par exemple, voilà, je ne sais pas si tu te rappelles, mais j'avais défendu l'idée aux journées d'études que qu'en fait, le chercheur était interne à son objet de recherche. Qu'il ne fallait pas chercher un objet de recherche dont on voit bien les contours, qu'on puisse tenir dans sa main, que ça, c'était plutôt l'objet théorique, scientifique qu'on créerait à la fin de la thèse. Mais qu'il fallait accepter que pendant le temps de la thèse, l'objet de recherche soit une sorte de maison, d'atelier en chantier dans lequel on évolue.
Mmh.
Et en fait, on se prend des murs quoi, en l'arpentant. En explorant son objet de recherche, on se prend des murs. Mais en fait, je crois que ces murs, si on accepte de passer du temps avec eux, peuvent acquérir le statut de contour de l'objet de recherche.
Mmh.
Voilà, en passant du temps dans ces frontières-là, voir l'article... Qu'est-ce qui est un obstacle dépassable, pas dépassable, qu'est-ce qui est un obstacle récupérable théoriquement ou pas, je pense qu'en fait on se familiarise avec son objet de recherche et qu'on en trouve progressivement les contours. Et donc moi c'est ça qui a changé en fait, je crois. C'est de me dire que c'est d'arrêter d'avoir peur que ma recherche soit pas faisable, je crois aussi.
Aussi.
C'est de me dire bon, voilà, ça se passe pas comme prévu, il y a de nombreux obstacles, mais en fait cet obstacle est une résistance de mon objet de recherche et donc cette résistance contient déjà beaucoup d'informations sur ce qu'est mon objet de recherche. Ça me donne des informations sur ce à quoi je suis en train de toucher.
Mmh.
Voilà.
Bien sûr, oui, c'est déjà presque un résultat en soi, en fait, et il faut pouvoir tirer profit, je pense, en effet, de ces questionnements-là sur la définition de l'objet de recherche. Donc voilà, si peut-être tu avais à résumer, du coup, sur ton itinéraire, bah, peut-être intellectuel, et puis la construction de cet objet de recherche. Et pour reprendre peut-être ta métaphore, est-ce que voilà, cette maison, du coup, ces quatre murs ont changé de dimension, ont beaucoup bougé, ou est-ce que finalement ils étaient presque déjà là, et c'est toi qui as cherché à les découvrir, qui parfois est sorti de cette maison pour aussitôt y re-rentrer. Enfin, voilà. Est-ce que tu pourrais du coup essayer de résumer un petit peu comment toi tu définirais l'objet de recherche?
Oui, je peux essayer. M'entends?
Oui. Oui, oui.
Oui, pardon, j'ai eu un problème.
Je t'entends bien.
Oui, je peux essayer de résumer. Je sais pas trop sur la priorité qui a été le premier entre moi et les murs de ma maison, qui est mon objet de recherche. Mais par contre, je crois que l'objet de recherche est une maison en chantier permanent, quoi. On fait des travaux dans son objet de recherche tout le temps, qu'on déplace des murs, que voilà, on casse des cloisons, on en met d'autres, et que ça nous appartient, voilà, de le délimiter aussi. Voilà, moi j'avais vraiment ce qui m'avait vraiment aidé, pour résumer, hein. C'était d'associer cette idée voilà, que l'objet de recherche, c'est l'objet tel que le chercheur, ou dans mon cas la chercheuse, le construit pour pouvoir l'examiner, l'étudier, et que en fait il ne faut pas attendre que cet objet soit lisse et transparent et symétrique et beau et tout ça. Il faut accepter que cet objet soit pâteux, qu'on s'y enlise, qu'on se prenne des bouts de plafond sur la tête. Et je pense que la corollaire de ça aussi, c'est qu'il faut prendre d'autres habitudes scientifiques et qu'on prenne un peu moins l'habitude de se parler de nos résultats et qu'on prenne au moins autant l'habitude de se parler de ce qu'on n'a pas réussi à faire, de ce qu'on cherche en fait, de ce qui n'a pas marché, de nos ateliers, de nos questions. Parce qu'en fait, la science, il me semble que c'est quand même vachement plus une histoire de tâtonnement et y compris de s'enliser et de ne pas y arriver. Que ce qu'on présente en fait dans des articles, dans des communications, c'est-à-dire des beaux raisonnements qui coulent de source.
Bien sûr.
C'est pas de moi ça, hein. C'est pas du tout de moi. Hein. C'est une. Par exemple, Bourdieu en parle, la différence entre logique d'exposition de la science et logique d'investigation en science.
D'accord, oui, tu nous en avais déjà parlé à l'époque, je me souviens. D'accord. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Louise. Donc, du coup, oui, vraiment, ce qui est intéressant dans ta présentation, dans tes réponses à nos questions, hein, c'est vraiment cet aspect plasticité de l'objet de recherche, et puis finalement cette souplesse, voilà, cette adaptation permanente, ce tâtonnement. Donc, c'est ce qui m'a beaucoup plu dans ton témoignage. Et du coup, je te remercie. En tout cas, tout ce que tu peux nous dire là fait vraiment écho à ce qu'on a voulu promouvoir pendant cette journée d'études jeunes chercheurs. Donc, l'échange, hein, vraiment sur les tâtonnements aussi de la recherche en train de se faire, du travail du chercheur non abouti, qui porte aussi vraiment tout son intérêt, je pense, pour faire progresser la science, l'épistémologie, et puis pour faire progresser nos connaissances sur les sociétés, et puis plus particulièrement, voilà, en sciences humaines et sociales en tout cas. Donc merci beaucoup, Louise, pour tes réponses à nos questions. Et donc voilà, c'était pour vous redire, hein, bien sûr, c'était dans le cadre de notre première saison de podcast sur la thèse n'est pas un long fleuve tranquille. Et donc, je pense que Louise en a fait véritablement la démonstration par ses belles réponses à cet entretien. Et donc, nous la remercions encore. Merci, Louise.
Merci beaucoup, Willy. Est-ce que je peux te poser une question?
Oui.
Est-ce que, alors, une